un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Le 10 décembre 2013, les millions de téléspectateurs qui regardent en direct à la télévision ou sur leurs écrans mobiles, avec le recueillement et l'émotion de circonstances, la cérémonie rendue en hommage à Nelson Mandela, découvrent sur la tribune un étrange personnage. L'homme est rond, souriant. Il se tient aux côtés de chaque intervenant. Il est supposé interpréter les discours en langue des signes. On le remarque à côté de Barack Obama, il bouge les mains dans tous les sens, il gesticule. Pendant plus de 5 heures, il s'agite aux côtés des plus puissants. Mais les signes que font ses mains sont des mouvements sans aucune signification ni la moindre grammaire. La sourde imposture est confirmée dès la fin de l'hommage. À l'évidence, l'interprète ne connaît rien à la langue des signes. Il malaxe ses doigts avec beaucoup d'énergie et de passion, mais ses compétences s'arrêtent là. Comment s'est-il retrouvé là? Comment le gouvernement sud-africain a-t-il pu être floué à ce point par l'entreprise chargée de la traduction en langue des signes, qui, comme par hasard, disparaît dans la nature dès la fin de la cérémonie? Les questions ne manquent pas de se poser, tandis que l'histoire de l'interprète imposteur fait le tour du monde. La défense de Tamjaka Sanjidje, l'homme en question, consistera plus tard à expliquer qu'il est un véritable interprète, mais qu'il a eu ce jour-là une subite attaque de schizophrénie, qu'il a entendu des voix et perdu tous ses moyens. Quelque temps plus tard, il a même profité de sa brève célébrité pour apparaître dans une publicité où on le voit dire « Vous me reconnaissez, je suis l'interprète de la cérémonie de Mandela ». Tout de suite dans les pieds sur terre, l'imposture que nous vous racontons est bien plus grave et ne prête nullement à sourire. Même si les malentendants de la planète ont eu à subir un sérieux préjudice lors de l'hommage à Mandela, l'histoire des habitants de Château-Chinon et alentour est plus lourde de conséquences sur leur santé, leur compte en banque et leur confiance dans l'humanité. Un récit de Jérôme Sandler.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bienvenue. Donc vous êtes à Moulins-en-Gilbert, c'est-à-dire à 15 km de Château-Chinon, qui était la capitale du Morvan. Et depuis plusieurs années, donc, il n'y avait plus de dentiste à Château-Chinon, sous l'impulsion d'un chasseur de tête, néerlandais aussi. Les politiques ont demandé si, à ce chasseur de tête, s'il ne connaîtrait pas dans son pays éventuellement quelqu'un qui pourrait être un dentiste. À savoir que ce recruteur était venu dans le Morvan depuis quelques années. Son objectif était surtout les biens immobiliers. Et donc, il a présenté Mark Van Nierop dans l'année 2008. Mark Van Nierop qui s'est dit enchanté par le Morvan, qui a enchanté tout le monde. Il fut accueilli à bras ouverts, dans la mesure où c'était le Messie qui arrivait à Château-Chinon. Il avait toutes les qualités. Mark Van Nierop était, on va dire, très grand, comme un basketteur. Il était très fort, comme un rugbyman. Très séduisant, il était toujours, je pense, dans la séduction. Toujours essayer de faire plaisir, en particulier les femmes, puisque j'ai l'impression que sa population était surtout féminine. Donc là, on va rejoindre Daniel à Saint-Péreuse, c'est-à-dire à 10 minutes à peu près d'ici.
Avec les voitures et les camions, c'est affreux. Attendez, je vais même fermer la porte parce que... Voilà. Ah, c'est lourd. Moi, mon dentiste est en retraite. J'avais plus de dentiste vraiment. Et un jour, je suis montée à Château-Chinon et puis je rencontre une copine, une amie, quoi. Puis elle me dit, moi, je viens de chez le dentiste. Ah, ben, je dis, au fait, comment il est? Oh, ben, elle dit, ma foi, ça a l'air d'aller, moi. Elle dit, je vais pas m'en plaindre. Bon, j'ai été, hein, mais... Alors, la première fois, donc, les filles m'ont fait une radio panoramique que j'ai payée moi-même de ma mère. Et puis, ben, ils m'ont donné rendez-vous. Moi, j'ai dit, surtout, on n'arrache pas de dents chez moi. Alors, il dit, non, pas de dents arrachées. Mais il dit, cette dent, il faudra qu'elle soit dévitalisée. Alors, disons qu'il faudra peut-être des semaines, des mois, voire des années. Je me suis dit, j'ai déjà eu des dents plombées, ça n'a pas mis si longtemps que ça. Je me suis dit, c'est peut-être sa méthode. Enfin, bon... Il a gratté un petit peu la dent, puis ça a été tout, puis je suis partie. La fois d'après, il me dit, vous savez que vous avez droit à un détartrage hasardeux par an. Ah, je dis surtout pas. Je dis, ça abîme les gencives, ça abîme les dents. Je dis, ça les ébranle. Non, je veux pas. Ah oui, mais pas beau, marron, pas beau. Il m'a pas demandé mon avis. Il s'est mis après moi. Mais alors, j'ai cru que ma tête aurait sauté à... de l'autre côté de la route. Ah, sans me faire d'anesthésie, là, par contre. Et puis, à la fin, ah ben, je l'ai senti, il m'a fait ça. Alors, voyez, j'ai plus de hauteur dedans, voyez.
Oh là là, elles sont toutes courtes maintenant, c'est ça?
Elles sont toutes courtes. Et puis alors, je sentais quelque chose qui me pendait entre les deux dents. Oh, je dis, il m'a coupé quelque chose. Alors, bon, sitôt fini, il est parti sur son ordinateur, sûrement pour compter les actes qui je devais. La fois d'après, quand je suis revenue, je lui ai dit, écoutez, vous m'avez rappelé. Non. Mais non, il était têtu comme ça, il voulait pas admettre. Et puis j'ai dit, écoutez, vous m'avez coupé quelque chose là à l'avant, entre les deux dents, enlevez-moi-le. Moi, ça me gêne de trop. Mais non, je vois rien. Quand je suis arrivée à la fin de l'année chez le fameux dentiste là qui prend tous les deux mois, trois mois, je ne pouvais plus rester comme ça, hein. Quand je suis arrivée, ben, ils m'ont dit, il vous a coupé le frein des dents. Je dis, le frein des dents, qu'est-ce que c'est que ça? Ils appellent ça la papille maxillaire. Vous savez, le petit bout de peau qu'on a entre les deux dents. Il m'a coupé ça, alors maintenant, je mange sur mon palais. Alors, bon, un jour, le vlac, il s'amène avec la main comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Ben, pourquoi vous cachez votre bras derrière votre dos? Mais non, rien. Il dit, pour vous, petite piqûre, parce que sensible, là. Mais il la touchait pas, cette dent-là. Il m'a piqué, et puis il est parti, 5 minutes pour vous, qui dit 5 minutes, le temps que ça fasse effet. Alors quand il revenait, ben oui, on est à moitié groggy déjà, si bien qu'il m'a touché toutes les dents saines que j'avais, qui étaient plombées en gris, il me les a mises avec un amalgame blanc. Et le dentiste de Moulin m'a dit, si elles ne sont pas couronnées, ces dents-là, elles vont casser. Tiens, avant-hier, j'en ai une qui a cassé. La deuxième fois, anesthésie encore, oui, mais c'est que je pouvais pas descendre les 15 kilomètres. J'étais comme ça sur la route, je voyais plus clair. Hein. C'est que je pouvais plus rouler du tout. Hein. Quand j'ai porté plainte à la gendarmerie, j'ai dit, je vous préviens que si vous m'aviez suivi quand je redescendais de chez lui, vous auriez pas mis longtemps à me faire garer sur le bord de la route et à me faire souffler dans le pipeau que j'y ai dit. Hein. Parce que j'ai dit, on se demandait si j'étais peut-être pas saoul, hein. Je tenais toute la route. Hein. La troisième fois, quand même, oh, quand je suis remontée, hein, je m'approche vers la secrétaire, puis je dis, dis donc, le docteur, il fait ses anesthésies avec quoi? Elle me dit, pourquoi vous me demandez ça? Moi, je dis, je suis allergique au curage. Elle dit, vous l'avez signalé? Mais j'ai dit, écoutez, moi, je venais pas pour me faire opérer, je viens pour me faire soigner une dent. Ah, oh, ben, elle dit, il faut qu'on le signale. Et puis, au mois de septembre, il me dit, maintenant, pour vous, madame, repos. Oh là, je me suis pensé bonne affaire, parce que j'ai marre quand même de venir chez toi. C'est-à-dire, entre-temps, j'avais demandé à la secrétaire, mais je lui ai dit, donc, je voudrais bien savoir où que j'en suis dans mes soins, parce qu'un de ces 4 matins, la note va tomber, et puis moi, comment que je vais faire? Ah ben, elle dit, on va regarder. Ah ben, elle dit, madame, vous êtes prise en charge. Moi, je suis en invalidité, donc j'ai été mise à 100%, mais pour la maladie, pas pour les dents. Et je me suis dit, c'est peut-être encore un procédé à lui, bon... Et puis alors, le 9 septembre, il me dit, pour vous maintenant, repos, madame. Ah bon? Ben, je dis, bon, c'est bien. Mais il dit, reprenez rendez-vous aujourd'hui pour au mois de novembre, ça vous va? Oui, bon, ben, d'accord. J'avais de plus en plus mal aux dents, hein, puis je me tenais comme ça, puis il m'avait fichu des antibiotiques, hardi-petits, ça, les anesthésies, j'étais. Et puis, j'y suis pas retournée, heureusement, parce que je sais pas ce qu'il m'aurait fait.
Il vous a abîmé combien de dents au total?
Pour tout faire les couronnes sur toutes les dents, parce que je crois qu'il m'en a déplombé 7, eh bien, il y en a quand même pour 10 000 euros. Alors non, moi, je ne peux pas mettre 10 000 euros dans des dents. Hein. Si je suis morte dans 2 ans, je ne veux pas mettre 10 000 euros dans des dents, non. On l'a nommé boucher, mais c'est même pas un boucher, c'est pire que ça. Hein, parce qu'un boucher, tant bien que mal, ça vous coupe de la viande. Tandis que là, lui, il faisait n'importe quoi. Hein. Est-ce que c'est qu'il faisait n'importe quoi pour gagner de l'argent? J'en sais rien, mais... Alors, et au début, il y a des gens qui ont été satisfaits. Est-ce qu'il a pété des câbles? Moi, j'en sais rien. Hein. Et puis moi, ce qu'il y a, c'est qu'il m'a quand même ébranlé ma santé. Hein. Parce que moi, qui étais costaud, qui peinais pas à faire mon travail et tout, moi, je suis lessivé. Hein.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail?
Ben, j'ai travaillé dans les cantines des écoles, et puis avant, j'étais à l'usine. Mais moi, j'étais costaud, j'étais fort. D'abord, j'avais des parents qui étaient forts. Mon père est mort de vieillesse, d'usure, hein, mais moi, j'étais costaud. Mais là, on dirait que j'ai plus de muscles, je suis fatigué le matin en me levant. Moi, ça, il m'a pourri ma vie avec ça. Hein.
Donc on traverse Château-Chinon, l'avenue principale de Château-Chinon, où se trouve le cabinet du dentiste. C'est donc cette grande maison, et à l'heure actuelle, qui est occupée par un podologue. Une bâtisse qui est remarquable, puisqu'elle est sur deux étages, elle a été refaite entièrement. Donc il avait un cabinet qui était en bas, au rez-de-chaussée, et un cabinet qui était au premier étage, puisqu'il soignait simultanément deux personnes à la fois. C'est-à-dire qu'il faisait petite piqûre en bas, il montait au premier étage, il avait déjà fait une petite piqûre quelques minutes avant, donc il gratouillait les dents, je suppose, ou il enregistrait les dents supposées travailler, il redescendait en courant, et là il essayait de faire éventuellement quelque chose dans les dents, et il retournait faire petite piqûre, il nous laissait quelques minutes, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait deux clients à la fois, rez-de-chaussée et à l'étage. Alors lui vivait à 25 km, à Monceau-Chlessetton, qui est une jolie petite bourgade que je connais particulièrement, puisque ma belle-mère y vit. Et le dentiste a acheté une maison bourgeoise, il l'a retapée, tel un châtelain, c'est un véritable petit château. Il se trouve qu'en 2011, j'ai un plombage d'une dent qui part. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller à Château-Chinon, puisque tout le monde parle du luxe, du modernisme de ce cabinet, pourquoi ne pas jouer la curieuse à aller voir. Le lendemain, j'avais rendez-vous. À 9h, j'y suis allé. Il avait l'art aussi, si vous attendiez quelques minutes, il me l'a dit lui-même. « Mais madame, vous, petit café ?» Non, merci, je ne savais pas. Je me suis dit, peut-être que c'est en Hollande qu'on offre un café, surtout pour aller chez le dentiste après avec les dents jaunes. J'ai refusé d'office parce que je n'étais pas habitué à ces pratiques. Il a pris ma carte vitale pour faire un dossier. Il m'a fait remplir des feuilles pour savoir les médicaments que je prenais, très exactement la secrétaire. Et il m'a fait asseoir sur le siège. J'avais beau lui expliquer juste un plombage, juste petit plombage là. Et lui me répondait par petit piqûre. Car vous douillette, mal, etc. J'ai dit non. Bon. Moi persuadé que avec sa petite piqûre, il avait fait un plombage. On ressort de chez lui. On était à peine arrivé au bureau, la secrétaire me donne un rendez-vous pour le lendemain. Je dis, mais ça va pas. Mais... Elle me dit, mais c'est très rapide ici, voilà. Donc, j'y suis retourné le lendemain. Et on recommence, petit piqûre. Et avec la radio néerlandaise qui résonnait dans la tête, je lui ai demandé du reste de baisser un peu sa radio. Et je lui ai demandé s'il pouvait pas mettre une radio française. Il m'a dit, c'était pas possible. Bon, pas possible si on veut. Et je lui demande, qu'est-ce qu'il me faisait? Ah ben vous, tout grave. Il me refait une piqûre de ce côté-là, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben, dévitaliser dents, mettre couronne. Bon, il est dentiste, marqué sur sa plaque docteur, je me dis, il a peut-être raison. Et en même temps, il a un style de doute. Je me suis dit, peut-être que c'est mon dentiste, que j'avais vu 5-6 mois avant, qui n'a pas fait son travail, ou qui serait passé à côté de quelque chose. Alors la petite piqûre, faut quand même savoir qu'elle vous endormait pendant 6 heures. 6 heures, j'étais complètement abasourdi. J'étais un peu comme sur un nuage. Donc, il m'a dévitalisé cette dent et il a pris des empreintes pour mettre une couronne. Et il m'a dit, ben, mettre couronne à côté, payer 900 euros et payer tout de suite. Donc, je me suis dit, c'est peut-être eux aussi, chez eux, qu'il faut payer tout de suite. Et il m'a mis la couronne sur la dent du plombage. C'était pour Pâques. Évidemment, quand je suis arrivé le samedi, jusqu'à 18h, j'avais la tête endormie, tout allait bien. Le dimanche, J'ai souffert tant et plus. Lundi, j'avais un abcès. Le mardi matin, je suis retournée chez lui et il m'a dit « Oh ben, abcès, percé couronne et percé dent, pu va sortir. » Donc, comme j'avais encore une piqûre le soir, bah, évidemment, j'étais encore anesthésiée. Le lendemain, j'y suis retournée en disant « Vous m'enlevez la couronne et c'est fini. » Évidemment, qu'est-ce qu'il a fait ? Petite piqûre, mais il n'a pas enlevé la couronne, il a enlevé la couronne et la dent. Voilà. Là, je me suis fâchée en disant « Non, c'est inadmissible, je suis venue pour un plombage et j'ai une dent en moins. » Et donc, je suis partie. Et puis, quelques temps après, la dent d'à côté me faisait mal. Donc, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il a fait à cette dent ?» Je suis retournée le voir. Il me dit « Mais moi, dévitaliser dent à côté ?» Je lui dis « Elle était saine, la dent. Je ne vous ai jamais demandé de dévitaliser, mais on était tellement shooté sur son fauteuil qu'on se rendait même pas compte. » Et là, j'ai cru vraiment à un mirage. Il me dit « Vous voyez là, petit point noir, partir hôpital, couper sous la mâchoire pour gratter. » Je lui dis « Vous vous moquez de moi là ?» Je me suis levé du siège, je lui dis « Mais vous vous moquez de moi, c'est pas possible. » « Ah ben ici, moi pas faire, moi pas faire. » Donc là, je suis partie et j'étais vraiment furieuse. Et je lui dis « De toute façon, je vous paye plus rien, c'est terminé. » Conclusion, j'ai dû aller à la clinique, voir un spécialiste qui m'a dit « Hors de question que je fasse l'opération demandée par ce dentiste. » Et il n'y a qu'une solution, c'est vous enlever une dent. Donc pour un plombage, j'ai deux dents en moins. Donc là, j'ai commencé à voir un peu rouge. Je me suis dit « Je suis peut-être la seule. » Et puis, j'ai quand même demandé à une assistante en disant « Tout le monde est ravi ?» Et elle m'a dit « Ben non. » Et je suis rentrée en contact avec une autre personne qui avait de gros problèmes. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés 6, 8, début 2012. À commencer à dire « Il y a un gros problème, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on fasse quelque chose pour dire stop. » Alors là, on est dans un petit village qui s'appelle Villapourçon et on va rencontrer Marie-Jo qui a eu de graves problèmes avec le dentiste.
Côté jardin, vous aurez la nature, la belle forêt du Morvan. Sinon, on se met autour de cette table, c'est comme vous voulez. Alors, moi, j'ai des implants depuis 1987. Et tous les 10 ans, la partie blanche de la dent s'use. Donc, je suis allée lui demander ce qu'il pouvait faire. Et je suis arrivée en demandant un rendez-vous. Mais il m'a dit, mais je vous prends tout de suite. Alors, stupéfaction, bonheur. Ben voilà, tout allait aller très, très, très vite. Et en effet, il a regardé. Il m'a dit, bah, pas de souci. Il m'a fait une radio, en effet, il me dit « il y a un petit problème à cet implant, je pense qu'il va falloir qu'on l'enlève », ce que j'acceptais volontiers parce que c'est quand même très douloureux d'une part, et puis quand ça s'infecte, il n'y a pas d'autre solution. Et après, il a découvert qu'au milieu de mon maxillaire inférieur, il fallait enlever 3 implants qui n'étaient pas aussi en bon état. Moi, faisant confiance à mon dentiste, eh bien, j'ai dit « vous faites le nécessaire ». Alors, il m'a soi-disant fait une greffe d'os, il m'a soi-disant remis des implants, ça je veux bien le croire, puisque j'ai un morceau d'implant qui me traverse la gencive depuis plus de 2 ans et qui m'a fait une infection permanente, et j'ai un abcès en permanence depuis 2 ans et demi. Donc, antibiotiques, j'ai une épaisseur d'ordonnance avec antibiotiques et bains de bouche, c'est surprenant. Hein. Et puis, quand les antibiotiques avaient fait effet, bien entendu, j'avais plus d'abcès, et ça recommençait. Le plus dur à l'heure actuelle pour moi, quand je réfléchis vraiment, et c'est surtout la nuit, je peux vous le dire, parce que je passe pas des nuits terribles hein, quand j'ai mal comme ça, mais c'est un sentiment de honte, parce que ben, on s'entend autour de nous, pas forcément les plus proches, dire « mais vous étiez quand même des bus, c'est pas possible d'être resté avec un énergumène pareil, il vous pique du pognon, il vous martyrise, il vous mutile, d'accord ?» Et très très franchement, c'est un sentiment de honte, on se dit « mais le fait est, mais on était malade, mais qu'est-ce qui s'est passé hein ?» Un sentiment de honte, un sentiment de, comment expliquer ça, c'est pas frustration le mot, mais de dire tout ça pour en arriver là.
Donc en définitive, quand il a vu que la clientèle commençait à s'espacer, parce que nous avons essayé d'alerter le maximum de personnes, le tiroir caisse ne fonctionnait plus très bien, et donc il a trouvé une solution, et il est tombé de l'échelle, fin juillet, et il a eu le bras paralysé. Enfin, toujours est-il qu'il fera passer un article dans le journal comme quoi il cesse son activité en date du 31 juillet 2012. Donc avec le recul maintenant, je sais, puisque j'ai quand même eu des contacts avec beaucoup de personnes, que ce soit inspecteur, inspecteur de banque, etc., qu'il avait tout simplement, au mois de janvier 2012, rehaussé l'assurance accident domestique à hauteur de 2 ou 3 millions au cas où il ne pourrait plus se servir de son bras. Et donc, en définitive, il a fallu ensuite prouver que ce personnage trichait aussi. Donc, comme j'allais souvent à Montceau chez ma belle-mère, mon mari aussi, surtout en hiver, où il y a beaucoup de neige, il s'est trouvé qu'un jour, sur la place, pas très loin de chez lui, nous discutions avec des amis, et qui avons-nous vu, au volant de son 4x4, eh bien, notre dentiste, qui avait un cigare dans une main, et qui conduisait allègrement son 4x4, et qui apparemment avait oublié sa paralysie, parce que c'est vrai que quand il neige, il y a du verglas, il n'y a pas grand monde sur les chemins. Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait aussi leur devoir de citoyen et qui ont dit qu'ils l'avaient vu conduire aussi bien la Corvette de sa compagne que son gros 4x4. Alors, quand il est arrivé ici, il s'est marié à Château-Chinon en 2008. Paraît-il avec un grand mariage. Je sais qu'il y avait une vieille traction qui a été louée. Il fallait que ce soit quelque chose de grandiose. Et sa première femme s'appelait Caroline. Et il l'a présentée comme prothésiste. Sauf que, il y a eu peu de temps après un deuxième avertissement du Conseil de l'Ordre parce que sa femme n'était pas prothésiste. Elle avait fait un stage de quelques jours en Thaïlande mais qui ne lui donnait nullement le droit de se faire appeler prothésiste. Caroline était une très belle femme et puis j'ai su par toute mon équipe hollandaise, disons qu'elle avait un métier un peu léger en Hollande. Elle vendait ses charmes et donc elle était arrivée en France prothésiste. Cette femme, peu de temps après, je vais dire, peut-être en janvier 2012, est repartie en Hollande et il est revenu avec une autre compagne. En croire toujours mon monde néerlandais, la deuxième doit faire partie du même monde que sa première femme. Après avoir rencontré plusieurs personnes où on se réunissait les uns chez les autres, on était 6, après nous étions 9 au printemps 2012, certains ont sorti les ordonnances et j'ai vu que, en définitive, il ne s'appelait pas Marinus Jacobus comme sur mon ordonnance, mais il s'appelait Marc. De là, j'ai quand même demandé à l'ordre des chirurgiens dentistes comment ça se faisait que cet énergumène avait quand même deux identités. Donc j'ai su que tout simplement, il se faisait appeler Marc et que c'était une usurpation d'identité et qu'il avait eu un avertissement qu'il devait se faire appeler Marinus Jacobus. C'était son nom officiel. Et le soir même, je suis rentré, j'ai tapé bien entendu Marc Van Nierop sur mon ordinateur, qui m'a montré tout de suite un journal néerlandais de mars 2005, avec en titre « Des dents qui valent de l'or » et qui était cité dedans. Bien entendu, c'était le dentiste de Château-Chinon qui avait fait exactement la même chose en Hollande qu'ici. C'est-à-dire qu'il se faisait appeler Marc Van Nierop, il avait plusieurs cabinets, il a détourné de l'argent, il y avait des victimes qui ont beaucoup souffert, il a spolié les assurances aussi, il est tombé malade, il a disparu dans la nature, il y a des plaintes qui ne sont jamais arrivées à leur terme, on ne sait pas pourquoi. Et lui, il a quitté les Pays-Bas pour venir en France. En France, il a pu avoir un certificat de bonne conduite, puisque les plaintes ne sont jamais arrivées à leur terme aux Pays-Bas. Il a montré, paraît-il, un diplôme. Quant au diplôme, c'est la justice qui cherchera si c'est un vrai diplôme ou si c'est pas un vrai diplôme, est-ce qu'il est vraiment dentiste ou est-ce qu'il ne l'est pas. Et puis, bien, nous continuons de nous animer un petit peu, notre groupe grossit de plus en plus. En décembre 2012, nous faisons passer des articles dans le journal local en disant qu'on a eu des gros problèmes avec un dentiste, que beaucoup ont des infections, que beaucoup ont des abcès et qu'il y a un problème. Donc, il faut que les gens se fassent connaître. Et c'est là que, bien entendu, on arrive à plus de 120, 140 personnes à cette époque-là. Ça a été On a été envahi. Et là, on a décidé de se transformer en association, l'association du collectif dentaire, loi 1901, pour avoir un statut légal et pouvoir enfin se faire entendre par les personnes compétentes, qu'elles soient politiques ou du monde médical. À partir du 22 mai 2013, nous avons pu déposer plainte pour escroquerie uniquement. Le dentiste a été mis en examen sous contrôle judiciaire début mai 2013. Et juste avant Noël 2013, il s'est envolé. Un mandat d'arrêt international à son encontre a été lancé le 26 décembre 2013. Et dernièrement, donc, on l'a retrouvé au Canada, où il vivait chez une dame qui l'a trouvé par Internet. Quand il a été sur le point d'être arrêté, il a fait une tentative de suicide, ce qui était déjà courant quand il était en France. Il faisait souvent des tentatives de suicide à Montceau-Chesséton pour dire qu'il était dépressif, pour ne pas être jugé à mon avis. Là, il a été rapatrié à Amsterdam, il est incarcéré aux Pays-Bas, et stupeur puisqu'il a annoncé qu'il avait tué sa femme en 2006, puisque quand il est arrivé, il était veuf. Le parquet de Bourges donc lui reproche violence ayant entraîné mutilation ou une infirmité permanente, escroquerie à la sécurité sociale et à toutes les mutuelles, faux et usage de faux dans la mesure où il a signé les devis de ses compatriotes pour des poses de bridge, de couronne, comme les compatriotes ne voulaient pas les signer parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup trop élevé, c'est lui qui a signé. Mais nous avons bon espoir de le récupérer avant Noël sur le territoire français, qu'il fasse Noël en France, puisque l'an dernier il l'a fait au Canada.
Dentiste de la Nièvre, un reportage de Jérôme Sandla réalisé par Thomas Jost avec un coup de main d'Émilie Valla. Merci à Nicole, Gérard, Daniel, Marie-Jo, Chloé, Pilorget, Rézou, Cassandrine Chaperon, à Jeanne Copé et à Justine Calais, notre stagiaire. Sachez que depuis la première diffusion de cette émission le 9 octobre 2014, le dentiste hollandais a été condamné à 8 ans de prison assorti d'une interdiction d'exercer définitive. Les premiers dossiers d'indemnisation ont été examinés en septembre 2016 et les montants s'échelonnent de 5 000 à 40 000 euros de dommages et intérêts car la justice a reconnu le préjudice permanent exceptionnel des victimes. En 2019, il n'y avait toujours aucun dentiste nouveau à Château-Chinon et en 2022, nous n'en avons pas trouvé non plus sur les pages jaunes.